self-reflective work.
But never mind.
Go ahead.
I was gonna say we'll be more prepared next week, but I'm not really a part of this.
Okay. And that's
I
it.
I might not even be here. So.
Sur les ondes de CKUT 96.3 FM.
Bonsoir. Nos invités sont Francine Maillé et Jocelyne Ménard. J'avais envie de les recevoir pour qu'elles nous parlent de leur parcours en tant que lesbiennes aînées. Elles étaient adolescentes dans les années 50. Elles en ont donc beaucoup à nous apprendre sur leur vécu. Bonsoir à vous deux.
Ah, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, Nathalie.
Salut.
Ça nous fait plaisir, Jocelyne et moi, d'être ici.
Premièrement, à quel moment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez lesbienne et comment s'est déroulé votre coming out?
On a eu deux différents parcours, toutes les deux. Alors, si Jocelyne veut bien commencer par rapport à son parcours, quand tu t'es rendu compte la première fois que t'étais lesbienne?
Oui, quand je me suis rendu compte que j'étais lesbienne, c'était à la campagne. Je viens de la campagne.
Tu viens d'où?
De Marieville, Saint-Angèle-de-Montoir, dans la paroisse. Donc, ça n'a pas été facile parce que je ne connaissais rien, mais je savais que j'aimais les femmes. Dans ce temps-là, c'était ça. On était aux femmes. Oui, j'étais jeune, j'avais 16 ans, 17 ans, quand je me suis rendu compte que j'avais un penchant pour les femmes.
Est-ce que j'ai vu juste, vous étiez adolescente dans les années 50?
Oui, mais adolescente, mais pas trop adolescente, parce que j'avais commencé à travailler déjà. Donc, pour moi, c'est un autre parcours.
Francine?
Bien, c'est-à-dire que moi, mon parcours a vraiment commencé à l'âge de 39 ans. Mettons que mon parcours, moi, il a été beaucoup différent de celui de Jocelyne, dans le sens que c'est le mouvement féministe qui m'a embarqué, si tu veux, dans ce que moi j'appelle aujourd'hui là, le patriarcat, l'oppression des femmes, etc., etc. Et c'était très, à l'époque, c'était en 1975, donc à ce moment-là, je suis embarquée dans ce discours-là, et puis je me suis rendu compte que le discours qui circulait, ben ça m'ouvrait des portes de mon vécu à moi, puis de ce que j'avais vécu, puis de ce que je voulais vivre et tout ça. Alors, c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré, évidemment, il y avait beaucoup de lesbiennes dans le mouvement féministe. Alors, j'ai commencé à rencontrer des lesbiennes, etc., etc. Notamment, une lesbienne qui est venue, parce qu'à l'époque, j'étais à Ottawa, qui est venue à Ottawa présenter un film que la revue Amazon Dia Lesbienne d'aujourd'hui et aujourd'hui, mais ils ont fait un film. Ils ont parcouru les États-Unis pour essayer de se rendre compte de où les lesbiennes vivaient, comment elles vivaient, elles pensaient à quoi à cette époque-là. C'était une époque 70, une époque extrêmement effervescente par rapport à tout ce qui s'appelle le gayisme, l'homosexualité, le lesbianisme et tout ça. Alors, moi, j'ai rencontré des lesbiennes et puis j'ai eu la chance, parce que j'étais étudiante à l'université sur le tard, j'ai eu la chance de rencontrer des théoriciennes lesbiennes qui ont écrit dans une revue qui s'appelait Questions féministes à la fin des années 70. Je pense que c'est une revue qui a existé de 78 à 82. En tout cas, je les ai rencontrées. Puis, comme je disais, il y a eu une lesbienne, en tout cas une écrivaine, que je vais citer, Monique Wittig, qui m'a vraiment drôlement bouleversée quand elle a dit dans un de ses textes « Lesbienne est le seul contexte que je connaisse qui soit au-delà des catégories de sexe parce que le sujet désigné lesbienne n'est pas une femme. » Alors ça m'a parlé parce que comme j'avais été hétérosexuelle jusqu'à l'âge de 39 ans, ben, je me suis dit, ben c'est ça, je suis une lesbienne, je suis pas une femme. Alors, c'est ces concepts-là, moi, qui m'ont amenée vers le lesbianisme.
Donc, c'est un concept politique, en quelque sorte.
C'est ça. Donc, je me considère d'abord et avant tout une lesbienne politique. Puis, par la suite, j'ai développé des attirances, mais je suis allée, comme on fait, ses premières armes par rapport à la sexualité. Moi, je l'ai fait à 40 ans, c'est ça.
Et qu'est-ce qui t'a attiré vers le mouvement féministe au départ?
Bien, premièrement, c'était à l'époque, j'habitais en France, et puis je me suis promenée devant une librairie, puis il y avait des livres dans la devanture du magasin qui étaient seulement écrits par des femmes. Il y avait Benoît de Groot, Ainsi soit-elle, et compagnie. Je suis rentrée et j'ai acheté 2-3 livres comme ça. Je sais pas, j'ai fait ça par... Je sais pas, ça me parlait. Et puis, parce que j'avais jamais rien lu comme ça avant, puis j'avais jamais vu de devanture, de vitrine, de librairie où il y avait juste des femmes qui étaient représentées, si tu veux, dans cette vitrine-là. Puis là, j'ai commencé à lire, etc., et j'ai été capable de partir d'une relation qui était vraiment pas bonne. Et puis, de fil en aiguille, ben quand je suis retournée au Canada, j'ai commencé à embarquer dans le mouvement féministe, à aller dans des marches, les femmes, la rue, la nuit sans peur à l'époque, etc., etc. Il y avait toutes sortes de choses. Fait que je suis arrivée, je pense, vraiment au bon moment. Est-ce que j'aurais fait le parcours qui est normal de la plupart des lesbiennes, c'est-à-dire, tu te rends compte que je le sais pas, parce que ça s'est jamais produit pour moi. Ça s'est produit par cette voie-là, puis après ça, je me suis rattrapée.
Et comment vos familles ont-elles réagi? Francine, est-ce que tu as des enfants?
Moi, j'ai un enfant, oui, j'ai un fils de 54 ans. C'est lui qui a été le plus facile. Il est jeune, il vit dans une époque où tout est ouvert, tout est, etc. J'ai jamais eu de difficultés avec ma famille d'origine, plus. Ma mère n'était pas très, très particulièrement contente de mon choix. Et puis, elle m'a dit, comme on dit souvent aux lesbiennes, « ça va te passer ». Ça va te passer. C'est juste un passage que tu fais, mais ça ne durera pas. Alors, je dis d'accord. 40 ans plus tard, je suis toujours ici.
Toi, Jocelyne, comment ça s'est passé?
Moi, ça s'est passé drôlement, parce qu'un soir, je travaillais à Montréal, je voyageais Montréal-Marieville, restais avec ma famille. On avait sorti la veille au pont de Paris. Puis, on est resté coucher à Montréal parce qu'on disait on travaille à la même place. Donc, on a couché à Montréal. Le lendemain, quand je suis arrivée chez moi, je reçois un téléphone. La copine avec qui je voyageais, elle est lesbienne. Puis là, elle m'appelle, elle me dit, Jocelyne, elle dit, dis à ta famille, il y a une rumeur qui part qu'on s'est fait arrêter par la police dans un bar. C'était le pont de Paris. Ben, j'ai dit, ben non, je dis, on s'est pas fait arrêter. Fait que là, je suis arrivée à la table, puis là, j'ai dit ça à ma famille. Parce que c'était à l'heure du souper. Fait que là, on m'a regardé, puis un de mes frères, il dit, t'as Jacqueline, là, il dit, c'est une femme aux femmes. J'ai dit, là, je vais sortir avec qui je veux, ça te regarde pas ce que je fais. J'ai répondu ça à mon frère. Personne n'a parlé, personne n'a pris ma part.
En quelle année?
En 65-66. J'étais décidée, hein?
Oui.
Ah oui. Fait que donc, ça n'a pas dit un mot. Ma mère m'a pas défendu, personne. Fait que ça restait comme ça, puis là, que je voulais m'en aller à Montréal, vivre à Montréal, vivre ma vie de lesbienne, là, parce que là, à ma arrivée, je pouvais pas vivre rien. Quoique j'ai appris des choses, qu'il y avait des filles, oui, qui étaient lesbiennes. C'est assez caché, hein, je pense. C'est une petite ville, hein, 5 000 de population. Mais une de mes sœurs, qui était pas là, ce soir, parce qu'elle était mariée, plus jeune que moi, 1 an et demi plus jeune que moi, qui a fait le chemin en disant, elle m'a demandé carrément ce que je vivais. J'ai dit « Oui, c'est vrai, j'aime les femmes, c'est ma vie, puis je peux rien. » Ben non, elle dit « On te sent malheureuse. » Ben là, je dis « C'est pas facile, là, partir d'une petite ville, aller à Montréal, puis tout ça. » Elle a fait le tour, puis ça s'est accepté. Là. Aujourd'hui, j'ai pas de problème avec ça, là, personne de ma famille. Mais j'ai fait un chemin. J'étais affirmative, puis j'avais dit à ma soeur « Si vous m'acceptez pas, vous me verrez plus. » C'était ça, ma réponse. Fait que là, elle dit « Non. » Elle dit « Je veux pas te perdre, là. »
Puis c'est en 66, l'homosexualité était décriminalisée en 69, oui, fait que c'était encore très tabou.
Ah oui, c'était très, oui. Certaines de mes amies m'ont dit que j'avais eu du courage de faire ça.
Ton amie Jacqueline, elle voulait que tu fasses ça pour faire ton coming out?
Elle le faisait pas, mais elle se cachait pas que t'es avec des femmes, mais c'était pas politique en plus, fait donc ça... Mais elle était sûre d'elle, elle aussi. Fait que donc, elle vivait aussi à Montréal. On a tous vécu à Montréal. Oui. C'était à la place.
Dans quel domaine vous avez travaillé et quels ont été les défis que vous avez rencontrés dans vos milieux de travail?
Moi, j'ai travaillé dans un domaine d'hommes.
C'est vrai?
Oui, Pratt & Whitney. Travail non traditionnel pour les femmes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Dans les moteurs d'avion, là. Monter des moteurs d'avion. Donc, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais... Les femmes qui étaient là, il y en avait 6 qui étaient lesbiennes. Sur 10, là, on était 6 lesbiennes. Mais il le savait parce qu'il y en avait qui disaient que moi, ça fait 20 ans que je demeure avec ma blonde. Mais il essayait de nous cruiser pareil. Mais je pense qu'on était assez affirmatifs, donc il n'y avait pas trop de malaise là-dedans. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu.
Mais tu avais quand même l'histoire que tu m'avais racontée par rapport aux photos qu'ils avaient.
Ah oui, ouais, ça, c'est autre chose. Ouais, il y avait des
ça,
photos
c'est une lutte
de...
que tu as menée toute oui. seule.
Oui, parce qu'il y avait des photos de femmes nues sur les murs, sur les gros frigidaires qu'on avait ou fours. Fait que donc, à un moment donné, on a arraché ça. Moi, j'ai arraché ça, puis j'ai fait une lutte. Comme ça, oh mon Dieu, ça a été difficile, ça.
Mais c'est en quelle année que tu as commencé à travailler là?
En 78. J'ai travaillé 22 ans, là. Puis j'ai pris ma retraite, j'étais là, à 59 ans. Fait que, donc, oui, le parcours a été fait dans le milieu du travail, en tout cas, j'étais pas cachée, là. J'étais pas cachée. pas du tout.
Ça se passait relativement
oui,
bien.
Oui, relativement bien, oui, oui, oui. Mais on avait la parole facile pour
oui,
se défendre.
Puis il y avait d'autres lesbiennes.
Oui, j'étais pas seule, c'est ça. Quoi qu'on m'a pas vraiment appuyée, là, mais ça fait rien, je l'ai fait pareil, puis... J'étais sûre de mon coup.
Toi, Francine, t'as évolué
dans moi, j'ai été bien chanceuse. Bon, j'ai été bien chanceuse parce qu'à l'époque, à 40 ans, quand je suis devenue lesbienne, en tout cas, c'est une drôle de façon de dire les choses pour moi parce que, bon, après avoir m'étant rendu compte pour juste reprendre un peu ce que j'ai dit avant, que les lesbiennes n'étaient pas des femmes, parce que les personnes qui avaient dit ça, donc Monique Wittier, Colette Guillaume, Nicole-Claude Mathieu, etc., sont venues donner des conférences à l'Université d'Ottawa où j'étais à l'époque. Et puis, donc, j'étais complètement subjuguée par ce qu'elles disaient. Mais ceci étant dit, je me dis, bon, ben, je m'en vais à une conférence à l'Université d'Ottawa. Ça s'appelait « Lesbianisme versus féminisme ». Alors, je me suis rendue là, et puis j'étais déjà à l'université, mais ça, c'était le soir. Et j'ai vu, il y avait dans l'amphithéâtre, debout, une centaine de femmes. Il y avait toutes des cheveux courts, il y avait toutes des pantalons, puis des bons souliers plats. Je me suis dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une centaine de femmes où il n'y en a pas une qui porte des talons hauts, 4 pouces, et puis des rouges à lèvres, puis du machin, puis des robes, puis des... J'ai dit... Hey, j'ai jamais vu ça. Fait que je voyais pour la première fois de ma vie, il y en avait une couple qui avait des robes quand même, il faut que je vous le dise. Mais bon, l'ensemble, non. Et ça m'a comme... J'avais les yeux qui faisaient « ouh, ouh! » Ils sortaient des orbites puis ils re-rentraient. Puis on est allé à la conférence et puis, bon, il y a eu des débats sur est-ce que les lesbiennes prennent part au mouvement féministe, s'ils prennent part, est-ce qu'on les reconnaît, est-ce qu'on les reconnaît pas, etc., etc. Bon, finalement... J'ai été imbibée de ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Je me suis regardée dans le miroir. J'habitais dans un petit toit et demi. T'es lesbienne, Maillé. T'es lesbienne. Et j'ai jamais pensé autrement. Je suis lesbienne. Mais une fois que je me suis dit lesbienne, dès qu'est-ce que je vais faire, c'est qui? Je suis-tu attirée? Je suis pas attirée? Et finalement, j'ai dit, bien, il faut que je fasse le parcours comme n'importe qui a à aller décider, tu sais, je veux dire, comment elle veut vivre sa vie sexuelle et autres. Alors, j'ai rencontré quelqu'une que j'ai vue qui jouait au baseball. Et puis, je me suis dit, wow! Alors, j'ai finalement réussi, une couple de jours après, à lui parler, à m'intéresser et tout ça. Je l'ai invité au restaurant, on est allé chez moi. J'étais naïve, mais plus naïve que ça, tu meurs. Et puis, je m'étais acheté une petite bouteille de champagne que j'avais mis dans mon frigo en me disant, je vais voir si c'est vrai, là, ce que je pense. Ou c'est-tu vrai jusqu'au plus profond de mon être, ou c'est-tu pas vrai ce que je me raconte des histoires? Et évidemment, consommation la première nuit et... Elle se retourne de bord pour dormir. Je me lève, je m'en vais dans mon frigo, je prends ma bouteille de champagne, je l'ouvre et je la bois en me disant « Je suis arrivée chez moi. Je suis à la maison. C'est ça que je suis. » Et je me rappelle de ça le 9 mars 1982. Il y a 40 ans cette année et j'ai fêté avec mes amis mon 40e anniversaire de coming out. Cette année, je l'ai fêté avec elle, avec toutes mes amies. Je les ai invitées chez moi pour me fêter pour mes 40 ans de lesbianisme. Parce que pour moi, c'était plus important que mon anniversaire de naissance cette année.
Tu es retournée à l'université à, oui, 39 ans. Tu as évolué dans quel milieu de travail?
Bien, c'est ça. Alors, c'est ça, ta question. Pour en revenir à ta question, je me suis beaucoup éloignée du sujet. C'est-à-dire que j'ai été très chanceuse parce que très peu de temps après, en 83, je suis déménagée parce que je ne suis pas québécoise d'origine, je suis franco-ontarienne. Donc, je suis déménagée d'Ottawa à Montréal. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un emploi comme directrice de l'action féministe au Y des femmes à Montréal. Alors, j'ai été là pendant 7 ans. J'ai organisé beaucoup de journées de visibilité lesbienne au Y pendant que j'étais là, dans les années 80. C'était une époque très effervescente. J'ai commencé aussi dans la communauté, parce que moi, je ne me voyais pas sans communauté. C'est-à-dire que moi, c'était très important, vu ce que j'ai commencé dans le féminisme, c'est de toujours avoir une communauté de lesbiennes autour de moi. Ça a toujours été important. Que j'aie une blonde ou que j'en ai pas, la communauté, pour moi, c'était vraiment quelque chose de primordial. Alors, il y a eu toutes les années, il y a eu 89, il y a eu l'épine, il y a eu tout ce qui s'est passé. On a fait une soirée où on voulait parler justement du fait que les journaux disaient que Marc Lépine, c'était un fou. Or, nous autres, on disait non, c'est pas un fou, il aime pas les femmes. Et puis, c'est différent, c'est politique. Son geste, c'est un geste politique. Alors, il y a eu ça aussi. Il y avait un petit local où il y avait plein de livres féministes, de livres sur toutes sortes de sujets qui touchaient le féminisme, de près ou de loin. Alors, j'étais responsable de ça. J'ai parti un groupe de survivantes d'abus sexuels dans l'enfance. En tout cas, j'étais porte-parole pour tout ce qui s'agissait de féminisme, surtout. Mais il y a eu des groupes féministes à ce moment-là, dans l'organisation, et puis c'était pas toujours bien vu. Il fallait pas qu'on se manifeste comme lesbienne vraiment dans d'autres lieux que nos lieux à nous.
Okay.
Alors même le Y des femmes étant un lieu pour les femmes, c'était pas nécessairement un lieu qui était ouvert aux lesbiennes pour les laisser, par exemple, mettre des affiches sur ce qui se passait dans la communauté, des choses comme ça. C'était pas évident, même pas à l'époque.
Mais quand même, toi, contrairement à Jocelyne qui a travaillé dans un milieu vraiment d'hommes, toi, t'es arrivée directement dans le milieu des femmes.
Directement dans le milieu des femmes, directement. Et c'était pas plus facile, mais bon, moi, je me suis jamais annoncée comme étant lesbienne. Parce que si je m'annonçais comme étant lesbienne, il aurait fallu que je dise que je suis une lesbienne politique. À ce moment-là, les gens ne comprennent pas. Alors là, il faut que tu embarques dans des grandes explications. Puis ça ne me tentait pas vraiment de faire des explications. Parce que juste de me dire que je suis lesbienne, automatiquement, les gens partent. Oh, accouche avec une femme. C'était pas ça, moi, mon propos. C'était je suis une lesbienne politique. Voulant dire que j'ai une histoire et une politique. Ça part de Sappho. Et puis c'est de ça qu'il faut qu'on regarde. Qui sommes-nous? Les lesbiennes, dans l'histoire, on a un parcours. Et c'est ça qui fait que c'est politique qui on est.
C'est vous qui avez choisi la musique de ce soir. On va tout de suite écouter Tracy Chapman. Est-ce que vous voulez nous dire ce qui a motivé vos choix de chansons pour ce soir?
Moi, j'ai toujours aimé Tracy Chapman. Je trouve qu'elle est une femme engagée et j'aime sa voix. Quoique je ne connais pas beaucoup d'anglais, mais ça fait rien. J'aime sa musique et tout.
On va aller en musique avec Tracy Chapman et on revient avec Francine Maillé et Jocelyne Ménard.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Finally the day
talking about a revolution. Oh, oh, no. Talking about a revolution.
Nous sommes de retour avec Francine Maillet et Jocelyne Ménard. Est-ce que vous êtes un couple de longue date et comment vous êtes-vous rencontrés?
Ça fait 3 ans, le 11 août, rencontré par rapport à l'école Guilford. Oui, parce que moi,
le
j'ai fait...
Le 11 août.
Le, oui, le 11
2019.
Août. 2019. Oui. Donc, moi, j'ai fait du karaté pendant 5 ans à l'école Guilford.
Donc, tu as bien connu
oui,
les activités.
Oui, les mouvements des femmes, et toutes les lesbiennes qui étaient là, que j'ai aimé beaucoup, beaucoup.
Vous êtes chanceuse d'avoir vécu cette période-là,
oui,
que les jeunes en vivent beaucoup.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus rien, il n'y a presque plus de bars, quoique ce n'est pas les meilleures places, mais en tout cas, il y a une rencontre qui se faisait là, beaucoup dans les bars. J'ai rencontré ma blonde là, d'aujourd'hui, là. J'ai failli manquer parce que je pensais que ça fermait à 6 heures. Je suis arrivée à 5h15, puis il était en train de tout défaire. Fait que là, je suis sortie, puis elle était dehors. Fait qu'elle dit, mais ça, moi, je te connais. Je la regarde, je dis, non,
je te connais.
Puis est-ce que vous vous connaissez?
Non, pas du tout. Moi, je la regarde.
Moi, j'avais l'impression, en y voyant le visage, que je l'avais déjà rencontré. Mais quand elle m'a dit son nom, je ne me rappelais pas de son nom. Puis j'avais invité des gens, des amis qui étaient là pour venir chez moi terminer la fête.
Non, mais t'as oublié quelque chose, là.
Ah oui, vas-y.
Elle m'a demandé mon âge.
Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça.
Je l'ai impressionnée avec mon âge.
Ça, c'est très, très important. Alors là, c'est ça, elle m'a dit, bon, mais mon nom, c'est Jocelyne Ménard. Là, je la regarde, je dis, mais t'as quel âge, toi? Là, elle me dit, j'ai 78. Mais elle me dit ça comme si elle m'aurait dit, ben j'ai 35 ans. C'est comme, elle m'a dit ça de façon tellement naturelle. C'est pas comme, demande-moi pas mon âge, comme il y en a beaucoup de femmes qui disent, demande-moi pas mon âge, j'ai pas envie de le dire. Que tu sois lesbienne ou hétéro, ça n'a pas l'importance. Les femmes n'aiment pas ça de dire leur âge. Bon. Alors, elle me l'a dit. Moi, je dis, oh, wow! J'ai dit, moi, j'ai 76 ans. J'ai dit, tigidou! Là, c'était tellement drôle. Fait que là, je lui dis, ben écoute, j'ai invité des gens pour venir chez nous. J'ai dit, mon adresse, c'est ça. Elle n'a rien pris en note. Rien. Tu sais?
Elle avait ça dans ma tête.
Fait que là, je suis partie chez nous. J'étais en plein milieu du party. Ça marchait bien. Les choses, ça sonne à la porte. Madame qui rentre. Je me sauve dans la cuisine.
Là, je me suis dit, est-ce que j'y vais? Je ne connaissais personne. Je ne la connaissais pas. Fait que, oh, j'ai dit, non, ça va me faire des amis parce que ça fait longtemps que je suis seule. J'ai dit, ça va me faire des amis. Comme ça que je me suis décidée, je me suis amenée ici. Puis là, elle m'a demandé mon adresse, mon numéro de téléphone, mon email. Je lui ai donné ça, puis dans la semaine, on s'est revus.
On s'est revus. Ça a pris, tu sais, un certain temps, parce que comme quand elle m'a dit, ça fait 35 ans que je n'ai pas été avec personne. 35 ans! Moi, je me suis dit, tu ne bouscules pas une personne qui n'est pas avec quelqu'un, qui a l'âge qu'elle a, 35 ans. Alors, tu te mets en arrière d'elle, puis tu la suis, jusqu'à ce qu'elle décide. Toi, tu as déjà décidé, mais elle n'a pas décidé.
Fait est-ce voilà. Que ça a été long?
Je dirais à peu près un mois et demi.
Elle attendait la bonne.
Oui, oui, c'est ça. Je voulais être sûre. Je n'étais pas pressée. J'avais 78 ans.
Elle n'était pas pressée. Aujourd'hui, on a respectueusement 81 et 79. Bientôt 80 pour moi au mois de décembre.
C'est vraiment beau à voir. En tout cas, ça donne espoir.
Oui, bien oui, c'est ça que tout le monde dit, les jeunes. Ah, oh, ça donne espoir, mais certainement que ça donne
on
espoir.
On se promène dans la rue.
Oui.
Et tout le temps, que ce soit à Saint-Lambert où Jocelyne habite, ou ici où j'habite, êtes-vous des sœurs? Êtes-vous des jumelles? Je réponds non, nous sommes des amantes. Wow. Alors là, ça fait cool.
Oui.
Alors, on a des jeunes gars, des couples âgés, oui. Homosexuels. Oui, oui. Tout le monde est comme ah. Ils s'entendent tellement pas à ce qu'on leur dit.
Deux têtes blanches, tu sais, deux têtes blanches.
On s'est dit que, hein, ça suffit, hein. Rendu à 80, là.
On se cache pas.
Moi, j'ai dit ouais. À tout le monde, j'ai dit, moi, le placard, je connais juste celui qui est dans ma chambre à coucher. J'en connais pas d'autres. Dans la chambre.
Fait que, faut donner de l'espoir aux jeunes. Je pense que ça se vit mal. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais ça se vit. Il faut le faire, puis il ne faut pas être gêné, tu sais, sans provoquer, être naturel. Mm-hmm. C'est ça.
Mais c'est ce qu'elle a aimé oui. De toi.
Oui, oui.
Francine, tu l'as dit un petit peu, mais comment, Jocelyne, t'es entrée en contact avec la communauté lesbienne?
Moi, c'est avec l'école Guilford, ça m'a donné beaucoup, beaucoup. Oui. Après ça, il y a eu le gris. Que j'ai fait des interventions dans des écoles. J'étais pour ça parce que déjà, beaucoup d'années avant, je connaissais une professeure Puis je disais, pourquoi qu'ils n'en parlent pas d'homosexualité dans les écoles? Il faut faire l'éducation de ça. Elle dit, c'est bien, mais elle dit, ça ne veut pas se faire. Elle dit, ça, c'est le ministère du gouvernement ça, qui ne font pas ça. Là. Fait que donc, quand j'ai entendu le gris, je l'ai connu par les jeunes communautaires. Il y avait un kiosque. Fait que donc, je suis allée donner mon nom, puis j'ai fait une formation, puis j'étais 2 ans, là. J'avais ça. Puis j'étais parmi le groupe et tout ça. Puis il me semble que je faisais quelque chose pour les jeunes des écoles, parce que c'était le secondaire qui faisait ça, ces interventions-là.
Mais moi, j'ai fait ça de 93 à 2003 aussi. Ah oui? Puis je comprends très bien le sentiment que tu as dû ressentir aussi,
oui.
D'avoir l'impression de changer quelque chose.
C'est ça,
parce que,
c'est ça.
Tu sais, on passait un questionnaire avant,
mm-hmm, oui.
Pour savoir qu'est-ce que les jeunes pensaient de l'homosexualité.
Oui.
Puis après l'intervention, puis on voyait souvent, mm-hmm. C'était un peu ça notre paye de bénévole, c'était de voir ce que ça avait changé.
Puis les jeunes avaient été contents d'en parler aussi.
Ça, c'en est une de tes implications dans la communauté française.
Moi, j'ai eu évidemment pas mal d'implications. J'ai été surtout impliquée dans l'écriture parce que j'ai piloté un dossier sur la maternité dans Amazon Dial Lesbienne d'aujourd'hui. Dossier, d'ailleurs, Amazon Dial qui a été Joanne Coulombe décédée, une de mes très, très, très bonnes amies, chère Joanne.
Mais elle a numérisé toutes les...
Elle a tout numérisé, donc elle a numérisé le numéro sur la maternité que j'ai piloté. Et puis j'ai écrit aussi des articles dans Amazon d'hier lesbienne d'aujourd'hui. Comme je te dis, j'ai organisé les journées de visibilité lesbienne. J'étais vraiment là extrêmement impliquée dans la communauté des lesbiennes. J'en mangeais et puis j'en régurgitais. C'était comme ma vie. C'était comme si j'avais, je sais pas moi, 20 ans là, et puis que j'arrivais là en ville, là, puis qu'il fallait que j'en mange. Là. C'est exactement ça que j'ai fait. Jusqu'à aujourd'hui, moi je me conçois pas en dehors d'une communauté lesbienne. Je ne me conçois pas. Je suis allée dans des danses, je suis allée dans des rencontres, toutes sortes d'événements lesbiens. Quand
les
on
soirées.
Parle, parce qu'on parle de nous autres, bon, Jocelyne puis moi, évidemment, on a des has-been, comme on dit, là. On est plus des vieilles que d'autres choses, mais...
des vieilles modernes. Les jeunes avec qui on parle en ce moment, les derniers temps, ils n'en reviennent pas, puis ils sont contents de nous parler, puis comment qu'on vit.
Fun.
On est assez dynamique, puis tout ça.
Ouais.
Fait que pour les autres, ça leur donne de l'espoir. Puis
de
je pense,
l'espoir, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
On va continuer en musique avec une autre chanson que vous avez choisie, La Rockeuse de Diamants de Catherine Lara.
Moi, j'ai quelque chose avec la musique. Moi, la musique, là, la danse, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde, comme mouvement. J'aime danser, j'aime la danse, et puis j'aime tellement ça que des fois, sur mon téléphone cellulaire, je vais me filmer en dansant.
Ah oui, je l'appelle,
et puis là, je le mets sur Facebook. Et puis là, mon fils, qui habite Budapest, est avec ses amis. Et puis là, il m'appelle, il me dit « Hey! » Il dit « Maman, j'ai présenté ta vidéo, il dit à mes chums de gars, ils ont regardé ça. » Ils ont dit « Mais Marc, pourquoi tu ne nous présentes pas? » Ben, il dit « C'est ma mère! » Alors, « Non! Oui, c'est ma mère! » Elle a presque 80! Parce que danser, pour moi, là, c'est comme, j'ai besoin de rythme. Ayant vécu en Afrique pendant 5 ans, la musique africaine m'a rentré dans l'âme. Quand on est allé récemment au festival haïtien au Parc La Fontaine, le mois dernier, et puis qu'on a commencé à danser, ça m'a tellement rappelé la musique africaine parce que ce rythme-là, c'est des Africains. Ce qu'ils m'ont montré aussi, c'est la joie de vivre. C'est leur joie de vivre, puis cette musique entraînante. Et c'est pour ça que j'ai choisi la musique en fonction du rythme. Mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment la musique africaine. Mon fils est né à Yaoundé, au Cameroun.
Qu'est-ce qui t'a amené à voyager?
Oh mon Dieu Seigneur, écoute, à l'époque, l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international du Canada, cherchait des professeurs pour aller... C'était après, comment dirais-je, que les pays d'Afrique de l'Ouest sont devenus libres.
Indépendants.
Sont devenus indépendants en 1960, 61, 62. Moi, je suis arrivée là en 67. C'est comme ça, je me rappelle, je me tenais sur une galerie, j'avais mon fils qui avait 2 ans à l'époque dans mes bras, et j'entendais au loin... J'entendais les tam-tams au loin tout le temps. Et puis, je dansais avec lui. Il y a le rythme, exactement,
comme les Africains. Moi, là, il fallait que je parte, il fallait que j'aille voir le monde. Et puis, c'est ça, c'est moi qui ai fait les premières démarches auprès de l'Agence canadienne de développement international. Et puis, dans une autre vie, à l'époque, le père de mon fils, lui, il a été embauché comme professeur d'anglais à l'École fédérale supérieure d'agriculture de l'Université de Yaoundé. Ces époques-là dans ma vie ont été... ça m'a marqué pour la vie. Pour la vie.
Oh, voient sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en navette. J'ai comme un frisson dans le dos, c'est mon point faible.
Nous sommes avec Francine Maillé et Jocelyne Ménard. Pouvez-vous nous parler des luttes collectives versus les luttes individuelles que vous avez vécues?
Moi, collective, j'en ai pas vécu comme Francine, mais individuelle, oui. Je me cachais pas que j'étais lesbienne. C'était dit dans la famille. Puis même ma famille disait, on peut en parler? Je dis oui, absolument. Faites le tour, ça ne dérange pas. Mais dans la période aussi où Jeannette Bertrand faisait des tables, là, parler.
Oui, parler pour parler.
Oui, c'est ça. Et ça l'a aidé beaucoup, ça, hein, pour au travail. Je sais qu'au travail, ils ont parlé. Puis je disais oui. C'est vrai qu'il faut qu'on en parle, puis il faut pas être gêné. Puis là, tout le monde découvrait qu'un mon oncle qui était peut-être gay, puis une tante ou une sœur ou un frère, en tout cas, dans la famille, il y en avait. On trouvait qu'il y en avait. Fait que donc, pour moi, c'était ça de vivre, même si j'étais pas collectif, là, mais seul, je faisais mon parcours. Donc, on m'a accepté comme je suis.
C'était plus dans le quotidien.
Oui, c'est ça, plus dans le quotidien que collectif. Mais s'il y avait des manifestations, j'étais là. J'étais une...
Participante?
Oui, participante, c'est ça, une participante, absolument. Donc, je donnais des coups de main.
Ben moi, quand je me suis dit lesbienne, et puis que le lesbianisme avait une fonction bien particulière pour moi, c'était politique. C'était un lesbianisme politique avant toute chose, et non pas un lesbianisme entre guillemets, je dis sexuel, mais un lesbianisme politique. Je veux dire que cette nouvelle définition du mot lesbienne m'a sauvé la vie. Et je dis bien sauvé la vie. Je suis sortie en partie du système politique hétérosexuel, hétérosocial, si tu veux, en n'offrant plus aux hommes de l'espèce ni mon corps, ni mon cœur, et ni mon énergie vitale et mentale. J'insiste également sur le fait que grâce à cette nouvelle conception du mot, ma vie a pris un tout autre tournant. Ce changement de cap historique me plongea dans le monde du lesbianisme politique. Et pour moi, ma quête de vie, c'est de faire en sorte qu'on comprenne enfin qu'est-ce que c'est que le lesbianisme politique. Parce qu'on est ici pour rester. Il faut déterrer notre histoire. Il faut déterrer tout ce qu'on a été pour qu'on puisse avoir corps, C-O-R-P-S, aujourd'hui. Pour qu'on puisse prendre corps de qui on est. Alors pour moi, ce n'est pas une orientation de genre. C'est vraiment une orientation parce que, bon, d'abord, je suis perçue comme femme dans la société, donc femme sexuelle, donc avec tout ce que ça suppose de difficultés, d'oppression, de tout ce qu'on veut aujourd'hui, parce que même le féminisme, tu sais, je veux dire, les femmes sont quand même pas arrivées à ne plus être opprimées, là, c'est pas le cas. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Moi, je veux vraiment que le lesbianisme devienne plus que juste une histoire de sexualité. La sexualité, ça fait partie de ma vie. Avec une femme. Mais c'est une partie de ma vie et non pas la totalité. C'est un peu ça.
Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à votre implication dans la communauté lesbienne?
Quand il y a des rassemblements, quand il y a des choses qui se passent, c'est sûr qu'on veut y aller.
Toi, t'es toujours participante.
Participante, oui, toujours. Je lâche pas. Même à 81 ans, je lâche pas.
C'est parfait, ça.
Puis je vais continuer jusqu'à temps que je vais être capable. Ouais. Puis j'encourage aussi les jeunes à embarquer aussi dans ces choses-là, dans ces mouvements-là, ça peut aider. Oui, ça aide. J'espère qu'ils vont continuer. Une relève de nous. Qu'on peut vivre ça aussi. Il y en a qui, je pense, qui ont peur de vivre ça. Oui.
Moi, il y a beaucoup de lesbiennes qui sont encore beaucoup dans le placard.
Ah, oui.
C'est malheureux. On a beau changer les lois, si les lesbiennes ont encore trop peur de sortir, bien, c'est ça. Ça prend énormément de courage. Mais il y a quand même des organismes comme le Réseau des lesbiennes du Québec, le CSL, le Centre de solidarité lesbienne, où elles peuvent aller militer, elles peuvent donner du temps, etc. Puis sortir, si tu veux sortir de leur... Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, puis je suis beaucoup sur des groupes de lesbiennes, ça m'intéresse beaucoup. Et puis ce que j'entends, ce que je lis beaucoup, c'est que les lesbiennes, il y en a beaucoup qui se sentent seules, il y en a beaucoup qui sont seules dans leur maison, dans leur vie. Et puis si elles n'ont pas une amante, ben elles sont complètement seules. Alors moi, je me dis, ben, tu sais, il faut mousser, il faut sortir, il faut leur parler, il faut être sur les réseaux, il faut leur dire, écoutez, il y a des gens, on va vous écouter, on va vous parler, on va faire ça ensemble. On a toujours existé, puis on existera toujours. Et c'est ça, qu'on le veuille ou non.
Surtout que les lieux de rencontre sont de plus en plus rares. Si on parle des bars qui existaient à l'époque où c'était facile de se rendre là.
Le nirvana des lesbiennes dans les années 80. Le Lilith, le Labyrinthe, le Pont de Paris, Babyface, il y avait la Rose Rouge. Il y avait tellement de lieux.
Le drugstore qui était
longtemps. Le drugstore aussi longtemps. Il y a eu beaucoup de lieux. Tu sais, parce qu'en dehors de ça, tu rencontres la personne où c'est un groupe de sport pour femmes. Tu sais, c'est encore aussi difficile aujourd'hui, je pense en tout cas, que ça l'était à l'époque. Mais ce que j'aimerais dire aussi, et ce qui est important, je ne sais pas si tu vas peut-être le mentionner, c'est par rapport au vieillissement.
Oui.
Parce que je sais que les lesbiennes se sont beaucoup intéressées à savoir si on pouvait avoir des maisons dédiées à des lesbiennes âgées. Parce que, bon, évidemment, quand tu es une lesbienne et que tu t'en vas dans un CHSLD ou whatever, ça peut être extrêmement stressant, si tu veux, d'être là parce que tu sais pas si tu peux dire que tu l'es, tu sais, tu sais pas comment les gens vont réagir, tu es toute seule, etc. Fait qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais à ma connaissance, actuellement et au moment où on se parle, je pense pas qu'il y ait de lieu
en ce moment, ou en tout cas pour femmes seulement, pour ne pas dire lesbiennes seulement. Je ne pense pas.
Ils ont essayé une année avec Pauline Marois qui était au pouvoir d'avoir des subventions pour faire des maisons justement pour les lesbiennes. Ça n'a pas marché, ça.
C'est extrêmement difficile. Alors, disons que nous, lesbiennes vieillissantes, c'est toujours une question qu'on se pose. Là, pour le moment, toutes les deux, on est en bonne santé. Elle est plus vieille, mais elle est en meilleure santé que moi.
J'ai beaucoup d'énergie.
C'est ça, beaucoup d'énergie. Elle, c'est sa marche, puis moi, c'est ma natation. Moi, je fais de la natation, puis elle a fait de la marche. Mais on sait qu'à l'âge qu'on a, on a des années où est-ce que c'est qu'il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à où est-ce qu'on vit, on continue-tu à vivre. Mais pour le moment, les choses vont bien. Tu sais, on peut faire le train-train quotidien, on peut faire tout ce qu'il faut qu'on fasse. Mais
est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète?
Bien, c'est toujours... Pour moi, je ne peux pas parler pour Jocelyne, mais pour moi.
Moi, je
ne
m'inquiète pas encore. C'est vrai que je suis en forme en ce moment, puis j'ai vu ma mère qui est morte à 91 ans, puis assez en forme, là. Pour moi, ça ne m'inquiète pas encore.
On espère qu'il y aura quelque chose pour les femmes qui va s'ouvrir.
Oui, on espère ça. Peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans... Il y aura quelque chose pour nous.
Ça, pour le moment, on se fie à nos amis, comme on a beaucoup d'amis. On est dans un réseau, donc tout le monde s'entraide, tout le monde s'aide. On est tous, nos amis ont tous 70 ans. Là. Il y en a quelques-unes qui sont dans la soixantaine, mais la plupart sont 70 en montant. Attends. Donc, ils sont plus jeunes que nous, mais ils sont quand même, ils avancent tranquillement.
Puis il y a la Fondation Émergence aussi qui fait un grand travail pour qu'Avir soit gay avec leur programme dans les maisons des personnes âgées qui existent déjà pour démystifier.
Oui.
Donc, ça peut être une solution à long terme.
Aussi. Oui, absolument. Mm-hmm. Absolument.
Parce qu'on veut rester dans nos logements. Hein?
Mais oui, c'est ça qu'on aimerait faire, mais je veux dire...
Ça, on ne sait pas. On ne connaît pas l'avenir.
Donc, parce qu'on ne sait pas non plus. Tu sais, je veux dire, le gouvernement dit toujours, ben, on va donner des sous pour l'aide à domicile, tu sais. Et puis, finalement, ben, ça ne se concrétise pas tout le temps, là. En tout cas, on invite toutes les lesbiennes qui sont âgées à continuer la lutte, à ne pas lâcher.
Absolument. Puis quel combat qui reste à mener, selon vous? Quand vous regardez la jeunesse aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'on a avancé? Est-ce que...
Oui, ça a avancé, mais moi, j'aimerais que les jeunes sortent du placard, qu'ils ne soient pas gênés de vivre leur lesbianisme. Là. Ça se vit sans provoquer personne. Là. Donc, faut pas avoir peur. Parce que je trouve encore qu'il y a une peur, les gens se cachent encore, ils sont gênés encore de dire qu'ils sont lesbiennes. Il n'y a pas de gêne, là. Je veux dire, c'est notre vie, c'est notre être. Pourquoi pas? On est des êtres humains comme les autres, mais avec une différence, certainement une différence que j'aime.
Moi, j'admire ma blonde, faut que je le dise en onde. J'admire ma blonde parce qu'on a le même âge presque, 18 mois de différence, mais elle est devenue lesbienne, elle savait ce qu'elle voulait, elle savait qu'elle aimait les femmes dans les années 60. Et puis, le courage que ça a pris à cette époque-là, moi, je lui lève mon chapeau. Puis j'y fais même un bisou, tiens. On veut que vous l'entendiez, notre bec.
Vous êtes encore très active et partante pour avoir du fun. Comment vous entrevoyez l'avenir?
Bien, moi, je suis très contente parce que cette année, je vais avoir deux poèmes qui vont être publiés cette année dans « Les Spread the Word ». Alors, si vous me permettez, on peut peut-être terminer par, justement, j'ai commencé par des textes très pratico-pratiques, très politiques, puis là, je veux terminer par ce que je ressens intérieurement. J'ai écrit beaucoup de poésie à travers les années. On va vous lire deux petits poèmes très courts.
C'est des poèmes qui vont être publiés?
C'est deux poèmes qui vont être publiés dans « Let's Spread the Word ». Alors, au mois de novembre, ça va sortir. « Velléité amoureuse, éprise ». Entiché, le suis-je d'elle. Ses lèvres arborent un sourire discret, indéfinissable. Je vois dans son regard enflammé son désir qui me dévore. Je me pense aimer d'elle, saisir cet instant de bonheur. Elle? Mais qui est-elle? Mystérieuse, héros, aux lèvres brûlantes. Astérix, héros, H-E accent aigu, R-O. Amante de Sappho, née dans une île à l'ouest de Lesbos, de Monique Wittig et Sandy Zweig, brouillon pour un dictionnaire des amantes, dans les cahiers rouges Grasset, page 109. Je me love au creux de ton épaule, paroxysme du plaisir, battement de cœur ressenti jusque dans la tête, le temps et l'ivresse d'une douce étreinte qui s'étire et disparaît dans les interstices entre nos deux peaux. Deuxième, exilé, douleur masquée des îles de mon enfance, larmes séchées, cadeau d'une amante inconnue, profondeur marine, fosse océanique, remonte, remonte à la surface de mon étreinte, sinueusement. Je m'accroche à la bouée de ton être et tu bascules dans le néant amazonique sous les regards des lesbiennes en exil, clamant le sens politique de leurs mots pas encore inventés. Fières et altières, les lesbiennes défient la tombe qui leur est assignée depuis la nuit des temps.
Les poèmes de Francine Maillot.
Ouais, là, ça va être signé. Francie M. Ça ne sera pas signé Francine.
Alias
Francie M. Mais j'écris de la poésie, ça doit faire 40 ans, depuis que je suis lesbienne, puis même un peu avant aussi.
Mais j'en ai écrit en anglais, en français, Histoire d'amour, Le chemin du retour, j'en ai plein.
Pour moi, la poésie, c'est ce qui m'a permis de m'exprimer, c'est ça, de m'exprimer.
La poésie et la danse, ça va bien.
Ouais. La danse, la poésie, la danse, c'est ça. C'est ça.
Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et on vous souhaite encore de très belles années ensemble.
Oh, ben merci. Ben, merci.
C'est tellement beaucoup. Cute.
Merci, oui. Merci de nous avoir reçus.
Oui. C'est vraiment un plaisir. Puis on va se laisser avec une belle chanson de Clémence Desrochers.
Oui.
Les deux vieilles.
Ah oui.
Ah oui. Oh, oui. Ça, c'est ma meilleure. Clémence, là.
Merci beaucoup.
Okay, merci.
Au plaisir. Hey.
Quand il fait beau soleil, je vois souvent passer deux vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilles amantes? Resterons-nous tendres complices de mes manies, de tes caprices? Dans le secret d'une maison, le château fort de nos saisons, où je fredonne un air ancien. Cet été, je ferai un jardin. Quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilles amantes, descendant lentement le temps, et qui s'arrête de temps en temps. Tu cherches long, moi le soleil. Les gens diront, voyez les vieilles qui sont ensemble depuis toujours et qui mourront le même jour. Quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui sont ensemble depuis toujours, qui partiront, le même jour. Thank you.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités Francine Maillet et Jocelyne Ménard. Nous, on se donne rendez-vous le 19 septembre à 19h pour une autre émission de Lesbos Son. Bonne fin de soirée et à bientôt.
Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, ilondoloze, zuhambenami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, ilondoloze.
Motion presents the Little Burgundy Festival. Come and join the fun with activities for children, prizes to win a diversity game, and delicious and tasty foods for all to discover. The 37th Little Burgundy Festival takes place on Saturday, September 10th at Vinay Park from 12 until 9 p.m. More than 40 artists will take the stage with headliners Jakarta, Maytone, Robin, Melo G, all backed by the Uprising Band. also the People's Gospel Choir of Montreal, and Algerian singer Amar Hamel. Sensational dance from Kebili Tassasut, Un Afro Dance, and B-Boy MTL Crew, and much, much more. That's Saturday, September 10th at Vinay Park in Little Burgundy. Noon to 9 p.m. You don't know it's a CKUT Come presentation.
It is 8 p.m. You are tuned into CKUT 90.3 FM on Underground Sounds. I'm your host and voice from the beyond, Jean Néant, aka Johnny Void. For the show tonight, we have a special program of sorts. I'm promoting a show. I'm performing and organizing on September 9th, happening at Les Cogriffes. It is co-presented with Muffland and Analog Addiction. I will be performing duo with Ennao at the show, but also in the second hour of our show, live in studio. First, we're going to have an interview with the